France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. L'intime au cœur du débat sur la fin de vie. Face à la commission spéciale chargée de travailler sur le projet de loi du gouvernement, Sandrine Rousseau raconte avoir aidé sa mère à mourir aujourd'hui et elle n'est pas la seule. Jusqu'à 3200 postes supprimés chez Casino, c'est le plus grand plan social depuis le début de l'année. Nous sommes à Saint-Étienne. L'actualité, c'est encore cette offensive d'Israël dans le sud Liban, l'une des plus importantes depuis le 7 octobre. Un adolescent de 16 ans arrêté et soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et puis nous irons à Kourou parce qu'on vient de mettre la fusée Ariane debout. Et c'est la première fois qu'on procède comme ça. Juste après ce journal, les Français et la vaccination. Vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce sont des histoires intimes et ô combien douloureuses qui ressurgissent quand il s'agit de parler d'une aide active à mourir. 71 députés de tous bords sont réunis en commission spéciale pendant 10 jours pour examiner le projet de loi du gouvernement sur la fin de vie. Ils auditionnent des soignants, des philosophes, aujourd'hui les représentants des cultes. Et face aux réserves de ces derniers, la députée écologiste Sandrine Rousseau raconte son histoire.
Qui sommes-nous pour juger de la souffrance d'autrui? Et qui sommes-nous pour juger qu'elle est insurmontable pour ces personnes, alors même que chacun et chacune sait que pour ces personnes, la mort est très proche? Et en fait, pour répondre à votre remarque, monsieur, moi j'ai aidé ma mère à mourir. Elle s'est suicidée et j'étais présente. Qui serais-je pour lui interdire ce geste? Qui étais-je à ce moment-là pour lui interdire cette souffrance, de souffrir de manière supplémentaire? Qui étais-je pour juger de son état à ce moment-là? Et en fait, c'est ça qui me choque, c'est que, certes, il y a question de la mort, mais ce qui est absent de vos mots, ce sont les souffrances de ces personnes. Et en fait, en tant qu'homme d'église, en tant qu'homme de foi, eh bien, la souffrance a une importance.
Le témoignage de Sandrine Rousseau, suivi par Alice Cachaner et avant elle, le député LR Philippe Juvin, anesthésiste réanimateur de profession, avait confié avoir pratiqué la sédation profonde chez son père. Là où les cultes ont dit leur inquiétude aujourd'hui sur un projet qui disent-ils pourrait peser sur les plus fragiles. Les auditions se poursuivent demain avec des associations pro et anti-euthanasie qui seront entendues. Le projet de loi doit arriver dans l'hémicycle à la fin du mois de mai. Tandis qu'en Italie, une loi définitivement adoptée aujourd'hui fragilise l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, encore un peu plus. Les militants anti-avortement auront désormais accès aux cliniques de consultation au prétexte de soutenir la maternité. Bruno Duvic est notre correspondant à Rome.
La loi prévoit que des associations puissent intervenir auprès des femmes pour qui la maternité est problématique, mais décident de garder l'enfant, intervenir après la naissance donc. Avec ce vote, les associations pourront s'inviter dans les centres de consultation avant pour dissuader une femme d'avorter. Jusque-là, seuls des professionnels formés, diplômés, pouvaient intervenir à ce stade. À vrai dire, dans deux régions au moins, le Piémont et la Vénétie, déjà des groupes pro-vie sont présents dans les centres avant l'IVG. Le vote régularise et facilite cette pratique. C'est une grave attaque contre la liberté des femmes, commente le Parti démocrate. L'accès à l'avortement est un parcours du combattant en Italie. Les deux tiers des gynécologues font jouer leur clause de conscience, obligeant des femmes à se déplacer loin de chez elles. En 20 ans, on est passé de 230 000 à 64 000 IVG en Italie. Quelques jours après la censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati sur la RAI, l'image d'une Mélanie plus modérée que prévu s'atténue nettement.
Bruno Duvic depuis Rome, alors qu'en France, les sages-femmes pourront désormais pratiquer l'IVG instrumentale dans les mêmes conditions que les médecins. Elles seront spécialement formées pour cela, pour améliorer l'accès à l'avortement sur le territoire, annonce ce matin sur Inter du ministre de la Santé.
Et c'est donc au tour des salariés de passer à la caisse.
Et de payer le prix de la mauvaise gestion de Casino. Maintenant que les hyper et les supermarchés sont vendus, le groupe réorganise au prix du plan social le plus lourd depuis le début de l'année. Jusqu'à 3200 postes menacés, dont 500 à Saint-Étienne, le siège historique. Aurélie Jacquan s'est rendue sur place.
Beaucoup d'allées et venues, on voit passer la directrice générale des enseignes Casino, mais pas de commentaires de la part de Magali Dobinet-Salène.
Nous avons tenu les réunions telles que c'était attendu. Donc
Donc voilà, pas de mots particuliers, les réunions d'information auprès de nos collaborateurs se passent.
La porte se referme, on reste dehors. C'est Nadine qui nous décrit ce qui se passe à l'intérieur, dans les bureaux. Presque un soulagement à l'annonce des 1000 postes conservés au siège de Saint-Étienne.
Il y a eu beaucoup de larmes, parce qu'il y a quelques mois, on était tous licenciés, et puis maintenant, il y a un peu d'espoir.
Même si, après 42 ans, elle ne sait pas si elle va garder son poste à la comptabilité.
Et l'attente est longue. On aimerait vraiment savoir quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà.
D'autant que les syndicats doutent des chiffres. 3267 postes supprimés. Laurent Milazzo, délégué CFDT, n'a pas la même calculatrice.
Moi, je pense qu'on sera au-dessus des 3000. Parce qu'il y a les magasins, on nous a annoncé aussi qu'un magasin... qui était prévu en reprise Intermarché. L'adhérence est retirée. Et donc, du coup, ça va faire encore un magasin de plus qui va rentrer dans le PSE. Donc, c'est encore une centaine d'emplois. Casino, il essaye toujours de trouver des repreneurs pour ces magasins-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau des chiffres, on ne sait pas.
Ce qui est sûr, c'est que 4 entrepôts logistiques vont fermer. Aucun dans la Loire. Mais ça devrait concerner environ 740 salariés.
Au reportage France Bleu Saint-Étienne Loire, le ministre de l'économie a déjà demandé à ce que le groupe fasse le maximum pour reclasser les salariés. Tandis que Duralex, c'est officiel, est placé en redressement judiciaire. La verrerie du Loiret, victime de la crise énergétique et d'une forte chute de la consommation. Simplifier la vie des entreprises, lutter contre le trop de normes dont elles se plaignent, c'est l'objectif du gouvernement. Et une cinquantaine de mesures ont donc été annoncées aujourd'hui, dont la suppression d'ici à 2030 des 1800 formulaires CERFA. Les employeurs ne seront plus obligés, par exemple, d'envoyer les arrêts maladie à la Sécu. 15 millions d'envois économisés. Et ce que l'on retient aussi ce soir, c'est ce qui concerne l'industrie. Bonsoir Mathilde Himy.
Bonsoir Hélène.
Pour accélérer la réindustrialisation sur le dos de l'écologie.
Alors, c'est le constat avancé par un confrère ce matin à Bercy qui a piqué au vif Bruno Le Maire. Nous avons, répond le ministre, une volonté environnementale forte, dit-il, mais il faut aussi faciliter l'installation des industries. Le ministre dédié Roland Lescure a donc défendu la simplification des démarches.
Aujourd'hui, des projets industriels peuvent parfois, du fait de recours abusifs, prendre 4 ans, prendre 8 ans avant d'être autorisés. Ce sera évidemment beaucoup moins important, de l'ordre d'un an à l'avenir. On y gagnera tous, les projets industriels, le verdissement et au fond, la France.
Alors pour gagner du temps, toutes les concertations, préfectures, publiques seront lancées en parallèle. Pour la géothermie par exemple, les industries bénéficieront du quota national de zéro artificialisation nette pour avoir la garantie d'avoir du foncier. La consultation publique pour les projets industriels ne relèvera plus de la Commission nationale des débats publics. Elle est indépendante. Bercy renvoie vers les nouveaux périmètres prévus dans la loi Industrie verte. Surtout, les compensations environnementales ne se feront plus en amont des chantiers, mais dans un délai raisonnable, dit Bercy. Plus rapide, plus souple, mais attention au suivi, alerte Arnaud Schwartz de France Nature Environnement.
Ce qu'il faut, c'est que les évaluations préalables soient bien réalisées pour que la compensation soit à la hauteur et qu'elle dure dans le temps. On ne veut pas voir ce qu'on a trop souvent vu dans le passé, des compensations environnementales qui, quelques années plus tard, sont saccagées, détruites. On ne peut plus continuer comme ça.
Et tout ça ne nous empêchera pas, dit-il, d'aller en justice si nécessaire.
Les mesures annoncées aujourd'hui concernent aussi les salariés, puisque le bulletin de salaire va être simplifié de 55 lignes à 15 environ pour gagner en lisibilité, assure Bruno Le Maire, à défaut d'avoir désormais tout le détail des cotisations. Le principal syndicat de contrôleurs aériens et la CFDT ont beau avoir levé leur préavis de grève. Des dizaines de milliers de passagers seront privés de vol demain. 3 vols sur 4 supprimés à Orly. Plus de la moitié à Roissy, les 2/3 à Marseille. Les plans de transport ont été modifiés, trop courts pour les changer. Accord de principe tout de même trouvé pour reprendre les négociations sur la réforme du secteur après des engagements sur des hausses de primes et de salaires pour les fins de carrière.
Cette fois, Israël assume une offensive dans le sud du Liban.
Une quarantaine de cibles du Hezbollah libanais ont été frappées aujourd'hui. Et selon l'armée israélienne, la moitié des commandants du secteur auraient été tués. Noé Pignède, vous êtes en direct depuis Beyrouth. Quelle est la réelle importance de cette offensive ? Est-ce une action d'envergure ?
Eh bien, en tout cas, des habitants du sud Liban racontent que c'est l'une des journées les plus violentes qu'ils ont vécues depuis le début de la guerre. L'aviation et l'artillerie israélienne ont massivement frappé plusieurs villages à l'ouest de la zone frontalière. Aucun bilan n'a pour l'instant été communiqué, mais l'armée de l'État hébreu affirme avoir visé des caches d'armes et des bataillons du Hezbollah. Le ministre israélien de la Défense assure même, vous l'avez dit, que la moitié des combattants de la milice au sud Liban ont été éliminés depuis octobre. Et là, eh bien, c'est un peu parole contre parole. D'un côté, Israël doit justifier ses frappes et de l'autre, le Hezbollah a tout intérêt à minorer ses pertes. Ces 6 derniers mois, la ministre libanaise a bien confirmé la mort de quelques-uns de ses officiers, mais la plupart de ses 280 membres officiellement tués sont présentés comme de simples combattants. En fait, Israël, comme le Hezbollah, doivent garder la tête haute face à leur population et montrer qu'ils sont prêts pour une guerre d'ampleur.
Noé Pignade en direct de Beyrouth, merci à vous. Israël qui reste sous la pression des Américains pour permettre l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza et sans délai, répète aujourd'hui Joe Biden, promulguant la loi sur une aide à Gaza et à l'Ukraine, les 61 milliards de dollars. Le président américain promet d'ailleurs une première livraison de matériel militaire rapide.
Désormais, il faut aller vite. Je vais faire en sorte que les livraisons reprennent immédiatement. Littéralement, dans les heures qui viennent, nous commencerons à envoyer de l'équipement à l'Ukraine. Des munitions pour leur défense antiaérienne et pour leur artillerie, des roquettes, des véhicules blindés. Cela rendra l'Amérique plus sûre, cela rendra le monde plus sûr. Nous nous dressons contre la dictature et nous ne nous prosternons devant personne.
Joe Biden traduit par Loïc Loury. La perspective de livraison d'armes rapide est un soulagement en Ukraine. C'est le reportage d'Agathe Mahu et notre correspondante sur place dans la banlieue de Kiev.
Ces habitants de Borodianka, Andrei et Olia, se réjouissent à l'idée de cette aide américaine.
C'est vraiment nécessaire. Pour nous, c'est une vraie question de survie. Sans cette aide, nous pourrions disparaître. Alors, cela nous donne un peu d'espoir. C'est vrai qu'on a perdu du temps ces 6 derniers mois, mais mieux vaut tard que jamais.
Le couple ajoute que cette aide n'assurera peut-être pas une victoire rapide, mais qu'elle permette au moins de tenir, à condition que l'Europe aussi continue de soutenir l'Ukraine. D'autres s'impatientent, comme Vera.
Il aurait fallu faire ça plus tôt. Il n'est pas trop tard, bien sûr, mais on aurait pu faire en sorte que la guerre finisse plus rapidement.
Et son mari, Serhiy, montre sur son portable la photo de ses deux fils, 30 et 35 ans, ensemble sur le front. C'est son fond d'écran. Vera ajoute que son époux s'est parfois agacé en regardant les infos.
Allez, envoyez cette aide plus vite.
Tous ne comprennent pas précisément à quoi serviront ces 61 milliards de dollars. Un jeune soldat s'inquiète auprès de nous. J'espère que les armes et les munitions arriveront bien jusqu'aux bataillons qui en ont besoin.
Reportage à Agathe Mahué dans la banlieue de Kiev en Ukraine.
Il est 19h12 sur France Inter. Un adolescent de 16 ans a été interpellé hier en Haute-Savoie, à Marignier.
Soupçonné d'avoir projeté un attentat pendant les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, il a été repéré sur la messagerie Telegram en train de chercher de quoi fabriquer des explosifs. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Dans le but, disait-il, selon les premiers éléments de l'enquête, de mourir en martyr.
Oui, un jeune homme qui est suivi par les services de renseignement, déjà connu pour sa radicalisation. Il s'est mis à dire sur les réseaux sociaux qu'il cherchait de quoi fabriquer une ceinture explosive pour commettre un attentat et donc mourir en martyr. Pendant la perquisition chez ses parents où il habite, les enquêteurs retrouvent plusieurs documents manuscrits, dont un dans lequel l'adolescent prête allégeance au groupe État islamique. Le jeune homme est en garde à vue, entendu par la DGSI. Son téléphone est analysé, notamment ses messageries cryptées. Lui reconnaît avoir projeté cet attentat à l'aide d'explosifs ou d'une kalachnikov dans le quartier très fréquenté de la Défense pendant les Jeux Olympiques. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes dans le but de savoir à quel point il pensait réellement passer à l'acte et si tel est le cas, où il en était de ses préparatifs dont il faisait donc état ouvertement sur les réseaux sociaux.
Information signée Ariane Grissel. Il est jugé pour avoir mis à prix la tête de son kinésithérapeute, un musicien de 52 ans soupçonné d'avoir recruté une équipe venue de Géorgie pour s'en prendre au praticien qu'il accuse d'être responsable de son handicap. La famille de l'accusé était entendue aujourd'hui par la cour d'assises de Paris. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Hélène.
Et elle a eu du mal à démentir l'obsession de l'accusé et son désir de vengeance.
J'ai eu un fils qui était normal, se souvient Jean-Claude, le père de Sylvain, frêle silhouette de 78 ans, secoué par les tremblements de la maladie de Parkinson, qu'il a déclaré quand les ennuis ont commencé pour Sylvain. Il a perdu toute joie de vivre quand il a su que c'était irréversible. C'était pas normal qu'un médecin l'esquinte comme ça, poursuit Réjeanne, la mère de Sylvain, qu'il se retrouve toute la journée dans un fauteuil relaxant, alors qu'avant, il vivait à toute berzingue. Mais cette rancune avec le kinésithérapeute, c'était obsessionnel, demande la présidente. C'est vrai qu'il tournait en boucle, reconnaît Jacques, l'ancien prof de batterie de Sylvain, devenu son ami. Il voulait lui casser la figure, mais il ne pouvait pas le faire. Ce qui le blessait le plus, c'est que la personne qui lui a fait ça ne lui ait même pas passé un coup de fil. S'il y avait eu ce petit geste, le drame ne serait pas arrivé, conclut le prof à la retraite, qui, comme les parents, se retrouve désemparé dans la défense d'un ami dont les souffrances ne peuvent quand même pas excuser un tel règlement de compte.
Compte rendu d'audience signé Jean-Philippe Degnaud. François Fillon est jugé coupable dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Et c'est définitif, décision de la Cour de cassation aujourd'hui, mais il y aura un nouveau procès ordonné pour réexaminer les peines. Le couple réfléchit à saisir la Cour européenne des droits de l'homme, fait savoir leur avocat.
Menacé d'interdiction aux États-Unis et poussé à suspendre son système de récompense en Europe.
Sale journée pour TikTok. Aux États-Unis, le Congrès lui donne un an pour rompre avec sa maison mère chinoise si elle ne veut pas être interdite. L'application accusée de rendre les jeunes accros, soupçonnée d'espionnage. Un ultimatum contre lequel le patron de TikTok promet de se battre.
Nous sommes confiants et nous continuerons à nous battre pour vos droits devant les tribunaux. Nous avons mis en place des mesures de protection qu'aucune autre entreprise n'a prises. Nous avons investi des milliards de dollars pour sécuriser vos données et préserver notre plateforme de toute manipulation extérieure.
Le patron de TikTok aux États-Unis, combatif, là où en Europe le réseau social préfère prendre les devants et reculer sous la menace de sanctions européennes. TikTok Lite a donc annoncé suspendre ses récompenses, ses bons achat offert pour le temps passé sur l'écran. Bonsoir Victor Vasseur.
Bonsoir.
Et c'était vraiment le cœur de cette application, le seul intérêt pour l'utilisateur.
Oui, concrètement, plus vous regardiez de vidéos, plus vous engrangiez des pièces virtuelles convertibles ensuite en cartes cadeaux sur des sites comme Amazon. Des récompenses accusées de favoriser l'addiction. Cette nouvelle application, lancée fin mars en catimini en France et en Espagne par le géant chinois, a rapidement interpellé la Commission européenne. Elle menaçait de prononcer la suspension de l'application dès demain. Finalement, TikTok a pris les devants en supprimant son système de récompense. TikTok Lite est aussi toxique que des cigarettes light, taclé il y a quelques jours Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, qui ce soir sur France Inter reste prudent après cette suspension.
Nos enfants ne sont pas des cobayes. On ne peut pas lancer une application et puis voir ensuite comment ça réagit. Il n'y a aucun bras de fer contre quiconque. En Europe désormais, il y a tout simplement une loi et chacun doit respecter la loi.
La loi en question, c'est le DSA, la nouvelle législation sur les services numériques plus restrictive. TikTok cherche toujours à engager un dialogue constructif avec la Commission européenne et les régulateurs, assure le réseau social contacté par France Inter. La plateforme chinoise qui est déjà sous le coup d'une enquête de l'Europe pour des manquements présumés en matière de protection des mineurs.
Merci Victor Vasseur. L'Union européenne qui vote, c'est la dernière session plénière avant les élections de juin. Des normes plus strictes sur la pollution de l'air pour 2030. Aujourd'hui, les valeurs limites annuelles vont être divisées par deux pour le dioxyde d'azote, polluant émis par le trafic routier. Vote aussi d'une carte européenne de stationnement pour les personnes en situation de handicap, reconnue donc à partir d'aujourd'hui dans toute l'Europe. Et comme promis, direction Kourou en Guyane à présent pour cette opération aussi impressionnante qu'importante pour la fusée Ariane 6. Elle est sortie de son hangar et mise à la verticale aujourd'hui. C'est la première opération de ce genre. Sophie Bécherel est notre envoyée spéciale.
C'est un gros tube blanc coiffé aux extrémités d'un tissu violet qu'on a vu sortir du hangar à petite vitesse pour gagner le pas de tir à 800 mètres de là. Ces deux étages de la fusée encore nus ont été déplacés par deux chariots roulants. Une rupture conceptuelle, confirme Karine Levaux du CNES.
Sur Ariane 5, dès le démarrage de la campagne de lancement, le lanceur était assemblé à la verticale. Ariane 6, nous avons fait le choix de l'horizontalité de manière à raccourcir la durée de la campagne Et effectivement, c'est une des grandes nouveautés, c'est réaliser cet assemblage à l'horizontale et ce transfert à l'horizontale.
La mise à la verticale a ensuite été réalisée avec une grue. La fusée est désormais debout, à l'abri, sous un bâtiment qui pourrait abriter le premier étage de la Tour Eiffel. Ce portique sera retiré au dernier moment, au moment du lancement. Tout a été fait pour diviser par deux le coût d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5. C'était la feuille de route des industriels il y a 10 ans au démarrage du programme. Franck Huyban, directeur des programmes chez Ariane Group.
C'est à la fois un renouveau et une continuité. C'est un moment très important dans le programme, presque symbolique, parce que de façon très visuelle, spectaculaire, on voit les étages du lanceur acheminés sur le pas de tir, mais en réalité, ça n'est que l'aboutissement d'années d'efforts dans les bureaux d'études, dans les usines.
En fonction du bilan qui sera tiré la semaine prochaine de cette verticalisation, la fenêtre de tir sera réduite. Elle s'étend aujourd'hui du 15 juin au 31 juillet.
Le lancement inaugural est prévu, comme le disait Sophie, notre envoyée spéciale, vers la fin du mois de juin. Deux infos de sport encore. Raphaël Nadal, incertain pour Roland-Garros. Il n'ira que s'il se sent vraiment prêt, dit-il aujourd'hui. Et puis le foot, match important pour le PSG en ce moment même, qui joue à Lorient, match en retard de la 29e journée. Les Parisiens qui viennent d'ouvrir le score grâce à Dembélé. Les Parisiens qui pourraient être sacrés champions dès ce soir.
Et merci beaucoup, Hélène Philippe.